Nous allons faire quelques lectures dans la parole. Matthieu chapitre 11, verset 3. Je vous encourage à noter ces textes. Je vous ai dit à plusieurs reprises que plusieurs parmi nous seront appelés, je le pense vraiment, je le sais, à être des diacres, des évêques, des anciens, des pasteurs, des épouses de pasteurs, des diaconesses. Et je pense que certaines choses sont mieux retenues lorsqu'on les note. C'est pour ça que je vous encourage à prendre des notes. Donc, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, Jean-Baptiste qui passe par un moment difficile, comme ça peut arriver, pourtant c'était celui qui a été taxé de plus grand par le Seigneur Jésus-Christ, et bien il a passé un moment difficile. Matthieu chapitre 11, il pose une question. Verset 3. « Es-tu celui qui doit venir ?» Ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Un petit peu avant, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, il y a le grand sermon de Jésus, Matthieu chapitre 5, appelé certainement le plus beau des sermons qui ait jamais été fait. Matthieu chapitre 5, on va lire dans les trois premiers versets. Jésus, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et apprit qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Je le relis. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous allons dans l'Apocalypse, où Jésus parle à cette église qui ne va pas bien, qui s'est attiédie, qui est en grand danger, Apocalypse chapitre 3. Une église qui est dans l'illusion, qui se croit riche et qui en vérité est pauvre. Elle est riche matériellement, mais elle est pauvre spirituellement. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Soyez rassurés de la préscience de Dieu, mes frères et sœurs. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Une autre lecture dans l'évangile de Luc, à la fin du chapitre de Luc 24. Il y a cette fameuse histoire où les deux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, sont dans un grand doute. Eux aussi sont tièdes, je pense. Même froid. Luc chapitre 24, dans ce chapitre, nous voyons deux disciples qui auraient dû rester à Jérusalem et ils s'en vont. Et ils s'en vont. Et on va lire que ce qui nous intéresse. Luc 24, versets 15 et 16. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Et au verset 45 de ce même chapitre, que fait Jésus ? Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Comprenons-nous les Écritures ? Les comprenons-nous ? C'est difficile de répondre. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, et c'est normal. Jésus a dit à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, Tu le comprendras plus tard. Il y a une révélation progressive, il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas, cela est dû à notre négligence, à notre tiédeur. Donc il y a des choses, c'est normal que nous ne les entendions pas encore, mais il y a des choses que nous aurions dû déjà découvrir. Il y a des choses qui semblent paradoxales, d'ailleurs les détracteurs de la parole se gargarisent bien de se moquer de la Bible en disant « oui, mais voyez, on a lu un texte par exemple sur la pauvreté ». Heureux les pauvres, et puis Jésus dans l'Apocalypse reproche, oui, tu sais pas que tu es pauvre, et ainsi de suite. Et tout cela a créé beaucoup de désordre dans le royaume de Dieu, beaucoup de déséquilibre, beaucoup de misère spirituelle, beaucoup de légèreté, beaucoup de choses qui font que les pécheurs se sont moqués des chrétiens, et en plus ils ont eu raison. Par exemple, est-ce qu'il est dit, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est écrit ? Oui, on peut prendre des textes, en veux-tu, en voilà, qui pourraient sembler nous demander d'être toujours, toujours joyeux. Est-ce qu'il y a un temps pour pleurer ? Vous savez, quand je me suis converti, j'étais dans une église, et franchement, j'avais compris de suite qu'il fallait respecter la parole. Et je faisais attention à ce qui n'était pas de la Bible. Je me souviens, une des premières prédications, j'avais entendu un slogan qui circulait à l'époque dans beaucoup d'églises. Ça avait dû être prêché par quelqu'un de bien, donc ça circulait dans les églises. Et c'était le slogan, c'était « Un chrétien triste est un triste chrétien ». Vous vous en souvenez ? Il y a 35 ans de ça, on entendait ça souvent. « Un chrétien triste est un triste chrétien ». J'ai dit, moi, ça ne me convenait pas, parce que je trouvais que... C'est pas biblique. D'autant plus qu'à des moments, le Seigneur peut nous demander d'être triste. On peut être triste, c'est évident. Est-ce qu'il y a des combats dans la vie ? Est-ce que vous avez des luttes ? Est-ce qu'il y a des moments difficiles ? Donc, il y a de la tristesse. À chaque jour, suffit sa peine. Et moi, je peux vous enfiler une trentaine de versets et vous montrer que la vie est difficile et qu'il y a des faiblesses, des manquements. Donc, c'est vrai, soyez toujours joyeux. De notre côté, que votre joie se change en tristesse. On pourrait dire, non, mais ça ne tient pas debout. Alors, Paul, il dit, réjouissez-vous toujours. L'apôtre Pierre, ils ont dû se disputer. Il dit l'inverse. Que votre joie se change en tristesse, que votre rire se change en deuil. Eh bien, ça veut dire que dans la vie, il faut réfléchir. Nous sommes souvent déséquilibrés. Une des premières prédications que j'ai voulu faire quand je me suis converti, c'était sur l'équilibre. Parce que je trouvais que, franchement, il n'y avait pas longtemps que j'étais converti, il y avait 3 ans, mais ça ne fait rien. Je me disais, tu vas faire une prédication sur l'équilibre, parce que je trouvais que beaucoup de chrétiens n'étaient pas équilibrés. Et je prends ma concordance, comme font tous les pasteurs, et je cherche, tac, tac, équité, équilibre, pas de mot équilibre. Je vais voir mon pasteur, je dis, monsieur Vertalon, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas le mot équilibre dans la Bible, c'est incroyable. Il me dit, non, il n'y est pas. Et pourtant, toute la Bible est un livre d'équilibre. C'est vrai. Donc, il faut qu'à des moments, nous soyons tristes. Ça vaut la peine parfois que la joie se calme un peu et que nous réfléchissions et que nous soyons amenés peut-être à une véritable repentance. Vous voyez ? C'est écrit, ça, que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance dont on ne se repent jamais. C'est écrit où, ça, les jeunes pasteurs, là ? C'est écrit où ? Il y a du travail encore, hein ? C'est pas grave. 2 Corinthiens 7, verset 10. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance dont on ne se repent jamais. Donc, voyez, faites attention aux enseignements déséquilibrés qu'on devrait être toujours ceci ou toujours cela. Ce n'est pas vrai. Par contre, il y a des choses, il faut les apprendre. Il faut les découvrir. Et dans le sermon sur la montagne, le Seigneur nous apprend beaucoup de choses, ce que Dieu veut. Vous l'avez déjà lu, le sermon sur la montagne ? Matthieu 5, 6, 7. Il y est dedans ou il n'est pas ? Oui, il y est. 5, 6 et 7, c'est 3 chapitres. Franchement, ça vaut la peine de les méditer parce que vous découvrez ce que Dieu veut dans la vie d'un chrétien. Alors la première condition, on l'a lu ensemble, heureux. Les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Donc c'est une condition pour obtenir le bonheur, pour être heureux. Le bonheur c'est quoi ? C'est quoi le bonheur ? Il est où le bonheur ? C'est quoi le bonheur ? C'est quoi le bonheur ? Il y a plein. Paul, c'est David qui dit dans le psaume 4, si je ne me trompe, qui nous fera voir le bonheur? Il pose une question, il se met en plus, il se fait le porte-parole de plusieurs. Qui nous fera voir le bonheur? Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous savez que Dieu accorde le bonheur aux gens qui le cherchent et qui obéissent. Heureux les pauvres en esprit, parce que nous, on est là, on nous demande, voilà le bonheur. Je lisais un commentaire dernièrement, les dieux sont heureux. Les dieux n'existent pas, mais pour les Grecs, par exemple, les dieux sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc les dieux dans le ciel sont heureux. Donc pour que les hommes soient heureux, eh bien, il faut qu'ils aient pareillement plein de biens matériels. Mais quand vous lisez le sermon sur la montagne, vous vous rendez compte que le bonheur, ce n'est pas ça. Un homme heureux, c'est un homme qui commence à désirer cette pauvreté en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Heureux ou béni, suivant les versions, les pauvres en esprit. En plus, car le royaume des cieux est à eux. En plus, voyez le paradoxe. C'est-à-dire que cette pauvreté va faire en sorte qu'on va pouvoir acquérir les choses du royaume ici-bas et dans l'éternité. Vous voyez le paradoxe. Mais il y a vraiment un état d'esprit. Cette question, on devrait se la poser. Est-ce que je dépends vraiment de Dieu? Pas vite, ne répondez pas vite. Est-ce que vraiment ma vie dépend de la grâce? Est-ce que ma vie dépend de cette foi que je devrais avoir? Est-ce que ma vie dépend du Seigneur Jésus-Christ? Oui, le bonheur, il est lié par exemple à la sainteté. Le malheur est lié au péché. Si quelqu'un vit dans le péché en pensant qu'il va découvrir le bonheur, c'est impossible. Le malheur, le péché est toujours synonyme de malheur. Toujours. C'est pour ça que le monde est malheureux. De la même manière que la sainteté est toujours synonyme de bonheur. C'est imparable. Donc, ceux qui sont vraiment bénis, et ça nous intéresse d'être bénis, et d'être heureux, oui ou non? Ah oui. Vous pourriez me citer des textes sur le bonheur dans la Bible? Psaume 23, verset. Oui, à la fin. Alors, psaume 23, à la fin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il juxtapose le bonheur à la grâce. Il ne peut pas y avoir de bonheur sans la grâce. Est-ce qu'il y a un autre verset qui vous viendrait à l'esprit sur le bonheur? Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous me présenterez votre pasteur, il ne va pas vous enseigner suffisamment. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le bonheur est relié à la foi. C'est comme ça, mes frères et sœurs, qu'on développe une véritable piété. Je vous assure que si on cherchait vraiment à comprendre ce que la Bible dit du bonheur, on n'irait pas chercher le bonheur dans le monde. Comme font tant de chrétiens qui rétrogradent. Pourquoi les gens rétrogradent? Eh bien, parce qu'ils vont chercher le bonheur ailleurs. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur. Psaume 25. Le bonheur lié au respect de Dieu. Vous voyez, c'est important, mes frères et sœurs. Moi, je suis peiné, on est tous peinés, attristés, malheureux lorsque l'on voit des rétrogrades. Oui ou non? Vous n'êtes pas malheureux de voir, il n'y a pas des rétrogrades dans votre famille? Vous n'êtes pas malheureux? Parce qu'ils n'ont pas saisi ces choses. Ils ne les ont pas comprises. Et il y a une bénédiction. Heureux les pauvres en esprit. Est-ce que je dépends de Dieu? Est-ce que vraiment je dépends de sa grâce tous les jours? Plusieurs ont dit dans leur prière, et ils disaient que tout vient de Dieu. Mais quand on dépend de Dieu entièrement, quand on sait que tout est grâce, qu'un morceau de pain c'est une grâce de Dieu, faire un pas devant l'autre c'est une grâce de Dieu, tout est une grâce. Tout est grâce. Vous le croyez ou le croyez pas? Tout est grâce. Et quand on dépend de Dieu entièrement, on est heureux. Quand Jésus parle justement dans le sermon sur la montagne de la justice, quand il dit aux gens, mais c'est sûr que les gens ils comprenaient pas peut-être. Quand Jésus a dit, ça me vient à l'esprit, quand Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je suis sûr qu'ils ont dû se regarder, mais c'est impossible. Comment on peut faire mieux que les pharisiens? Les pharisiens, dans leur justice à eux, leur propre justice, il y avait 365 interdictions et 250 commandements à respecter. S'ils faisaient ces choses, ils étaient considérés comme étant justes. Alors imaginez-vous quand Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes. Ils ont dit, mais c'est impossible. Mais Jésus a montré ce que c'était sa justice. Sa justice, c'est que nous soyons couverts par son sang. Et voilà, quand est-ce que la propre justice, ça sert à rien? Pourquoi ils l'ont rejeté? Pourquoi ils se sont moqués? Pourquoi ils ont méprisé Jésus? Eh bien, parce qu'ils ne voulaient, ils étaient orgueilleux de leur justice. Moi, je sais combien de gens sont orgueilleux de leur religion. Moi, j'ai ma religion. Je ne changerai pas. Moi, je suis de telle dénomination. Mes frères et sœurs, mais franchement, vous êtes aveugles si vous en êtes là. C'est pas votre dénomination qui vous sauvera. C'est pas votre doctrine qui vous sauvera. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ appliqué sur votre âme qui vous sauvera. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, j'ai accepté le sang de Jésus-Christ. Il est justice, il est ma justice. Si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas pauvre en esprit, vous dépendez de votre justice à vous. Moi, je dois faire ci. On m'a dit que pour être sauvé, on était sauvé par les œuvres. On m'a dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Personne, Dieu a mis tous les hommes sous le même pied d'égalité. Béni soit Dieu pour les œuvres qui nous suivront, car l'Apocalypse dit que les œuvres nous suivront. Et les pauvres en esprit, ils sont bénis. Et Dieu résiste aux orgueilleux. C'est un principe éternel. Les orgueilleux, ils seront réprouvés. Comment il s'appelle, un certain Lucifer? Vous connaissez Lucifer? Il était resplendissant, étincelant de rubis, etc. Vous connaissez les textes? Il était intègre. C'est écrit ou c'est pas écrit? Oui. Jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée dans son cœur. Lui, le grand chérubin, protecteur et tout ce que vous voudrez, il lui a pris l'idée de s'asseoir au-dessus de Dieu. Jusqu'au jour, il a pris la décision. C'est des choix que l'on fait. Seigneur, moi je ferai le choix d'être humble. Heureux les humbles. Quiconque se rendra humble, c'est un choix. Ne dites pas, ah ben moi c'est pas, je ne l'ai pas reçu ça, vous savez. Moi j'ai mon caractère. Non, non. Si vous êtes un orgueilleux, c'est que vous l'avez choisi. Si vous êtes humble, c'est que vous l'avez choisi. N'allez pas dire au Seigneur des choses complètement contraires. C'est un choix. Regardez David, le roi, le grand vainqueur. David, cet homme de réputation, etc., etc. Il y a 40 livres dans la Bible qui parlent de David. Quand il a péché, il n'a pas dit, Seigneur, tu sais, quand même, je suis le roi d'Israël. Honore-moi, comme a fait Saül, un certain Saül. Honore-moi devant les frères, quand même, tu te rends compte d'où je suis. Non, il a dit, Seigneur, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Et Dieu l'a relevé. C'est lui qui a écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront dans le psaume 23, vers la fin. C'est lui qui a écrit ça. Oui, parce qu'il savait que la grâce pouvait l'accompagner. Pas m'accompagner. Quand il m'a fallu m'occuper de Goliath, elle m'accompagnera. Mais les chrétiens, ils savent que la grâce de Dieu les accompagneront. C'est au futur, avec ce mot « oui » qui est une véritable confirmation de cette certitude que l'on a dans le cœur. Oui, ceux qui s'abaissent seront élevés. Mes frères et sœurs, la pauvreté spirituelle, c'est une grande qualité dans le sens où je dépends de Dieu. Je dépends toujours de lui, quel que soit mon titre, quelles que soient mes capacités. Est-ce que vous avez reçu des dons? Vous répondez. Est-ce que vous avez reçu des choses? Michael, vous aimeriez bien recevoir le don pour faire chanter, enfin, non? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien des dons? Combien vous en avez? Combien de dons avez-vous reçus? Vous en avez reçu quand même, il y a des dons, il y a les dons naturels, il y a les dons spirituels, etc. Il y a des qualités, etc. etc. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est de dépendre du Seigneur. Vous rappelez, Jésus donne une parabole. Ces deux hommes qui rentrent dans le temple. Ils rentrent dans le temple, l'autre est pharisien, dont il a un titre, il a reçu un titre religieux, l'autre il n'en a pas. Donc il y en a un qui prie et qui commence à prier, « Je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres. Moi je fais ci, moi je fais ça, et moi je donne, et moi je prie, et moi je jeûne, et puis je ne suis pas comme cette jeune fille là aux lunettes à côté de moi. Hein, je ne suis pas du tout comme elle. Moi, tu vois Seigneur comment je suis. » Et puis l'autre, bien sûr, il n'osait pas lever la tête. Hein, ah si. Il n'osait pas lever la tête et il priait dans son cœur. Est-ce qu'on peut prier dans son cœur? Ah ben oui. On peut prier dans son cœur. C'est qui la personne la plus spirituelle, celle qui prie à haute voix ou celle qu'on n'entend jamais? Ah oui. Moi, je l'ai entendu, ça, des âneries pareilles. Moi, j'ai entendu, ici, quelqu'un qui a dit « Celui qui ne prie pas à haute voix, il n'est pas spirituel. » C'est ridicule. C'est ridicule. En tous les cas, ça culpabilise les gens et ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Lui, il ne prie pas, il prie dans son cœur. Il dit, voilà, il n'osait pas lever la tête, je suis comme pauvre pécheur, pardonne-moi. Et il demande que le sang de Dieu le purifie. Et Jésus conclut en disant, celui qui n'osait pas lever la tête, qui demandait que le sang du propitiatoire, parce qu'il fait l'allusion à l'Ancien Testament, et bien il est reparti justifié, et l'autre non. Pourquoi ? Parce que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Et c'est une bénédiction lorsque l'on réalise sa pauvreté spirituelle. Merci Seigneur pour les dons, merci pour ce que j'ai reçu, mais moi je veux continuellement dépendre de toi. Ça c'est ma première partie, donc dépendre du Seigneur, continuellement, quel que soit ce que j'ai pu recevoir. Mais mes frères et sœurs, on voit bien dans le deuxième texte que l'on a lu, que le Seigneur ne veut pas que nous restions pauvres. Que nous restions pauvres spirituellement, que nous dépendions de Dieu de cette façon, c'est une chose, mais le Seigneur ne veut pas que nous restions pauvres spirituellement dans le sens où nous ne recevrons pas tout ce que Dieu veut nous donner. Alors là, c'est quand même des questions que l'on pourrait se poser. Alors le mieux, ça serait peut-être de méditer, je vous l'ai demandé plusieurs fois, peut-être vous l'avez fait, peut-être que non. Je vous ai demandé de méditer les trois premiers chapitres de Paul aux Éphésiens. Est-ce que vous l'avez fait ? Vous l'avez fait ? Alors, on va y aller. J'aimerais qu'on y aille un petit peu. Mes frères et sœurs, parce qu'on devrait avoir honte de notre pauvreté spirituelle. Quand je vois la quantité de chrétiens qui sont toujours dans la défaite, vous n'en connaissez pas des chrétiens toujours découragés. Le problème du découragement, c'est qu'en plus, après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils découragent les autres. Vous voyez ? Dans l'Épître aux Éphésiens, alors écoutez-moi s'il vous plaît, je vous le demande parce que je ne pourrai pas tout faire ce matin, mais vous pouvez vous le faire chez vous, d'une manière sérieuse, s'il faut, ça prendra un mois ou deux. Mais prenez le temps de méditer les trois premiers chapitres de Paul à Éphèse, s'il vous plaît. C'est une épître où Paul déborde de louanges. Il déborde de reconnaissance. D'ailleurs, c'est dans cette épître où il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il est là, il parle de joie. Non, c'est dans les Philippiens. Mais il en parle beaucoup de joie également dans l'épître aux Éphésiens. Alors, regardez avec moi. On va lire le début. D'accord ? On va lire quelques versets. Pour apprendre à méditer, alors on va le faire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc cette épître, elle est adressée aux chrétiens. Ceux qui ont été sanctifiés, les saints, ce sont ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, et les fidèles, ce sont ceux qui continuent à rester sanctifiés. Donc c'est une épître pour les chrétiens qui continuent à obéir. Première prière. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la grâce et la paix. Premier point. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, une chose est sûre, Dieu nous a bénis. C'est au passé, donc ça veut dire que nous avons été bénis une fois pour toutes. Dieu veut que nous soyons bénis. Le passé, c'est vrai, le présent, oui, et l'avenir, Dieu veut nous bénir de toute bénédiction spirituelle. Deuxième point, en lui, Dieu nous a élus. Est-ce que vous le réalisez que nous sommes des élus ? Mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis élu. C'est quoi l'élection ? Qu'est-ce que c'est l'élection ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je réalise ? Regardez, là, alors on va voir certaines choses. Au verset 17, il arrête sa louange. Il explose, pourtant il est en prison. Il est en prison, mais je peux vous dire que Paul, il n'est pas en prison. Il est assis ailleurs, comme il le dit plus loin, dans les lieux célestes. Il explose, il déborde de reconnaissance. Il est là, je crois que c'est la phrase d'ailleurs la plus longue de la Bible, c'est tout ce qui suit. Et au verset 17, il dit, mais je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Mes frères et sœurs, Paul arrête sa prière, sa louange plutôt. Il arrête sa louange, il est exalté. Et il dit, mais je prie pour que cette révélation que j'ai reçue vous la receviez également, que vous sachiez. Ça doit passer par la connaissance, mes frères et sœurs. Ça ne peut pas passer par l'expérience sans passer par la connaissance. Plusieurs fois, vous verrez Paul qui dit « Je veux que vous sachiez, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Et les chrétiens, ils racontent n'importe quoi. Et je disais tout à l'heure, ce que j'entendais il y a 36 ans, un chrétien triste est un triste chrétien. Eh bien, le gars, le lendemain, au boulot, eh bien, il répétait pas la parole, il répétait des slogans qui ne tiennent pas debout et qui étaient capables de dire à un chrétien qui est dans le deuil « Mais tu sais, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. » Ça, c'est ridicule. Ça, il ne faut pas le savoir. Ça, oubliez-le. Mais Paul dit, voilà, je veux que vous le sachiez. La connaissance, elle est indispensable. Mais il ne faut pas que ça reste de la connaissance. Jésus dira plus loin, ou plutôt, il dira, la connaissance, elle enfle. Ça veut dire que je peux apprendre. Et c'est archi intéressant d'apprendre. Moi, le premier, j'aime apprendre. C'est comme ça, j'aime lire la Bible, j'aime étudier. Mais la connaissance, si elle ne reste qu'au stade de la connaissance, elle enfle. La connaissance enfle et l'amour édifie. Mais Paul dit, je veux que vous sachiez. Lisez les épîtres et vous serez étonnés. Je veux que vous sachiez. Il faut savoir. De quoi, par exemple? Alors là, c'est infini. C'est pour ça que je vous demande de le méditer chez vous. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. On revient à l'élection. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et vous remarquez, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, parce que laissez-moi vous dire que le Seigneur, il ne fait pas les choses au dernier moment. Au petit bonheur, la chance, tiens, il y a des gens, ils sont là, je ne comprends pas. Mes frères et sœurs, Dieu est tout-puissant. Il a tout préparé à l'avance. Il sait qui sera au ciel. Il sait qui sera en enfer. Il n'est pas là. C'est pas de la prédestination déjà préclassée. Ça veut dire que Dieu sait qui sera sauvé. Dieu sait qui sera perdu. Il sait si on restera fidèle. Il sait si on décrochera. Il le sait parce qu'on est libre. Mais oui. Alexandre le forgeron, il a abandonné. Ou Démas, il a abandonné Paul. Pour l'amour du siècle présent. Est-ce que Dieu le savait? Ben oui. Mais quand on sait certaines choses, on peut dire, ben là maintenant, il faut que je l'expérimente. Dans la première prière, il y a le fait, il faut que vous sachiez. Et dans la deuxième prière, à partir du chapitre 3, on voit bien que là, on n'est plus dans la connaissance, on est dans l'expérience. Regardez, 3, verset 12. Mes frères et sœurs, je vous assure, moi, ces trois chapitres, ils ont changé mon ministère. Bon, il y a des années, mais ça fait rien. Ça a changé mon ministère, cette affaire des trois premiers chapitres de Paul aux Éphésiens. Regardez, au chapitre 3, il recommence sur la richesse de Dieu, sur la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, j'en profite avant qu'on lise là. Regardez, au verset 13, 18, il est parlé, quelle est la richesse de sa gloire? Voyez? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Verset 4 du chapitre 2, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Verset 8 du chapitre 3. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 12. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Parce que les chrétiens savaient que Paul était en prison, ça les affligeait quand même. Et Paul dit, mais non, ne vous découragez pas parce que je suis en prison. Surtout pas. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il est vraiment dans la louange. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. Là, on n'est plus dans le savoir, on est dans l'expérience. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, alors j'explique, par le Saint-Esprit dans votre esprit. Mes frères et sœurs, quand vous lisez cette épître, vous rendez compte que les richesses de Dieu sont inépuisables. Et nous sommes souvent comme les Laodicéens à cause de notre tiédeur, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs à cause de notre froideur. Nous sommes là et nous éloignons de Jérusalem, nous nous éloignons de la grâce. Et nous faisons notre petit chemin parce qu'on ne comprend pas et on espérait que et on pensait que et je ne sais pas pourquoi et le Seigneur il a repris quelqu'un de ma famille, je ne comprends pas, il n'avait que 90 ans. Je l'ai entendu ça. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a repris ma mère. Quel âge elle avait ? 93 ans. Ah d'accord. Hein. Mais vous croyez que le Seigneur il se moque de nous ? Si Dieu veut me reprendre dans 5 minutes, est-ce que Dieu peut me reprendre là ? Pouf, je tombe sur l'estrade. Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que ça peut m'arriver ? Comment vous réagiriez ? Comment vous réagiriez ? Pouf, je tombe mort sur l'estrade. Qu'est-ce que vous diriez ? Oh, c'est pas possible. C'est pas normal. Et si moi je vais demander ? Est-ce qu'un pasteur, je ne l'ai pas fait, mais je veux dire, est-ce qu'un pasteur pourrait demander, Seigneur, tu vois, moi j'aimerais mourir sur l'estrade. Il paraît que Dalida disait, je voudrais mourir sur scène, devant les projecteurs. Bon, ben, elle n'est pas morte comme ça. Mais je veux dire, est-ce qu'un pasteur pourrait dire, Seigneur, je veux mourir en prêchant ? Comment ? Ben oui, ça s'est déjà arrivé. Mais sérieusement, mes frères et sœurs, vous croyez que le Seigneur, il se moque de nous ? Il se moque de vous ? Si Dieu décide de reprendre un de nos enfants, alors qu'il n'a que 40 ans, ou 30, ou 5, est-ce que c'est possible ? Mais Dieu ne se moque pas de nous. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il maîtrise tout. Il est tout puissant. Alors, ne commençons pas à nous priver de sa grâce avec un comportement qui attriste le Saint-Esprit. Et demandons-lui cette richesse infinie. Paul s'arrête de louer Dieu. Il est là, vraiment, il y a quelque chose dans son cœur. Il connaît le Seigneur. Bien sûr, il n'a pas écrit l'Épître aux Éphésiens trois jours après sa conversion. C'est évident, on sent bien que des années d'expérience sont passées par là. Il connaît de mieux en mieux et de plus en plus le Seigneur. Il sait ce qu'il dit. Il est inspiré par le Saint-Esprit. Il n'est pas là en train de se morfondre. Qu'est-ce que je fais en prison ? Oui, ah, je suis en prison. Mais je sais pourquoi. Et puis il y en a qui ont dû se charger de l'aider dans son analyse. Mais Paul, si tu es en prison, tu l'as bien cherché. Tu ne te souviens pas ce que tu faisais avant ta conversion ? Et Paul, je suis sûr qu'il y en a qui ont lui envoyé des textos. Je rigole pas. Je suis sûr que le diable, il a dû essayer de le détruire. Elle lui dit, mais Paul, mon pauvre Paul, avant ta conversion, tu faisais mettre les chrétiens en prison. Eh bien, tu l'as bien cherché. Vous ne le croyez pas ça ? Que le diable, c'est l'accusateur des frères. Et il essaye de nous détruire avec notre passé. Eh bien, Paul, ça n'a pas marché. Paul, il était dans la louange. Il connaissait Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on le connaît, notre Seigneur ? Bien sûr que moi, le premier, je dis, mais je ne le connais pas assez. Quand on chantait ce matin, Jésus, tu es précieux pour moi. Je pensais à ce que j'ai enseigné jeudi aux responsables. Franchement, je pense qu'il faut que j'en refasse allusion. Dans le chapitre 15 du Deutéronome, écoutez bien mes frères et sœurs, il est parlé de l'année de relâche. Au bout de 7 ans, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Lorsqu'un esclave avait été acheté sur le marché, parce qu'à l'époque, les marchés étaient un peu comme les nôtres, il y avait des radis, de la salade, des concombres et des poulets. Mais il y avait aussi des esclaves. Et l'esclave était vendu, pas au prix fixe, mais aux enchères. Donc c'était celui qui proposait le plus, qui obtenait l'esclave. L'apôtre Paul, nous on ne comprend pas quand il parle aux Corinthiens de « vous avez été rachetés », tout ça. Quelqu'un l'a dit ce matin dans sa prière, « Seigneur, on a été rachetés à grand prix ». Je ne sais plus qui c'est. Paul fait allusion à ce qui se passait du temps des Corinthiens, puisqu'il y en avait à Corinthe, et dans tout l'Empire romain. Et il fait allusion à cette affaire que nous étions tous des esclaves, tous perdus à cause du péché, et que quelqu'un qui avait les moyens est venu pour nous racheter. Mais d'abord, il fait allusion, et je voudrais qu'on le lise, je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais franchement, j'ai la cœur. Je pense que quelqu'un a besoin de le comprendre, ça l'évitera peut-être de rétrograder. Dans Deutéronome, chapitre 15, il y a cette affaire, c'est merveilleux. C'est merveilleux, moi je vous assure que j'en ai versé quelques larmes, réellement de reconnaissance. C'est l'année sabbatique, vous savez. Alors lorsqu'un maître, quel qu'il soit, achetait un esclave, lorsqu'il achetait un esclave, au bout de 7 ans, la 7e année, il devait le libérer. Il devait le libérer, c'était comme ça. Pour qu'il y ait de l'équilibre, qu'il n'y ait pas d'histoire au niveau financier, au niveau de déséquilibre financier dans les familles. Deutéronome chapitre 15, on va lire à partir du verset 12. Mais mes frères et sœurs, vous savez, ça a été écrit pour qu'on comprenne certaines choses. Ce n'est pas de l'histoire là, qu'on apprend. Deutéronome 15, verset 12. « Si l'un de tes frères, hébreu, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. » Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Regardez bien, écoutez bien, mes frères et sœurs. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi. » Je peux le relire, s'il vous plaît. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi. » Alors, tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Amen. Vous avez compris. Très humblement, cet esclave en question ne pouvait pas les 15 premiers jours, mais 3 premiers mois. Allez. La première ou la deuxième année ne pouvait pas peut-être réaliser à quel maître il avait affaire. Parce qu'il y a toutes sortes de maîtres. Il y a des maîtres bons, il y a des maîtres méchants, il y a des maîtres très très bons, il y a des gens très très, très méchants, etc. Mais lorsqu'un homme avait été acheté, imaginons, et nous sommes tous des esclaves, à cause du péché, nous sommes tous sur le marché du monde en esclavage. Mais là, nous avons affaire à des gens humains, on ne parle pas de Jésus, mais des maîtres bien. Il y a des gens bien sur la terre. Il y a des gens très bien. Et cet esclave, au bout de 6 ans, qui avait quand même eu assez de temps pour vérifier que cet homme était bon. C'est pour ça, les jeunes, vous qui voulez vous marier, prenez du temps. Pas 6 ans. Mais, vous savez, certains regrettent de ne pas avoir pris du temps pour vérifier quelle était la piété de quelqu'un. Mais au bout d'un certain temps, cet esclave qui vérifiait que le maître était très bon, quand arrivait l'année de relâche où il aurait pu retrouver sa liberté, il disait non. Non. Non, 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 non. Je resterai chez mon maître. Vous avez vu? Parce qu'il l'aime. Toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi. Mes frères et sœurs, quand vous connaissez bien le maître du ciel et de la terre, moi je peux vous dire qu'on l'aime et qu'on est bien chez lui et qu'on aime sa maison. Même si nous, êtres humains, on n'est pas parfaits, c'est pas pour ça que tous les esclaves, tous les serviteurs, les ouvriers, etc. étaient peut-être dans une attente et idyllique. Mais moi, je fais quand même la différence entre les difficultés qu'on pourrait rencontrer parfois entre nous, ce qui peut arriver et qui peut être très formateur. Et la perception que j'ai de notre maître, avec un M majuscule, qui lui, il n'a pas vendu 3 ou 4 châteaux et a donné des millions d'euros pour nous racheter. Il a donné sa vie. Il a versé son sang, notre maître. Et là, il n'y a peut-être pas besoin d'attendre 6 ans pour réaliser qu'il est bon. Parce que quand on ouvre les yeux sur la croix, on peut peut-être arriver dans la maison. Parce qu'il y a dans le grec plusieurs mots qui indiquent comment l'esclave était acheté, puis après comment il était ramené à la maison, et comment à la maison il était libre. Bon, il y a toute cette gradation, mais je me doute que certains esclaves pouvaient arriver à la maison et râler. Oui, je suis un esclave, il m'a acheté, maintenant il faut que j'aille m'occuper des champs, labourer, l'autre il faut que j'aille faire ci, faire ça. Mais nous, ce matin, sincèrement, par rapport à ses richesses quand on va arriver au ciel, mes frères et sœurs. Je pense qu'une des premières choses qui doit arriver quand on meurt, quand on est resté fidèle, on doit tomber à genoux et dire « qu'est-ce que j'ai honte ». Je ne sais pas, je paraphrase. « Seigneur, je suis passé à côté de tes richesses. » Quelqu'un ce matin dans la louange a dit que le Seigneur était venu pour nous donner l'abondance. Vous le croyez vraiment ? Comment se fait-il que nous soyons si pauvres ? Je ne parle pas de richesses matérielles, parce que les richesses matérielles, si le Seigneur nous parlait de richesses matérielles, j'ai la nette impression qu'il y aurait beaucoup d'efforts qui seraient faits pour les obtenir, ces richesses matérielles. Oui ou non ? Je ne regarde pas. Sérieusement, le Seigneur nous parlerait de richesses matérielles, quoique il ne l'interdit pas. Il ne l'interdit pas. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. Mais mes frères et sœurs, ces richesses spirituelles, est-ce que nous aussi, nous pourrions faire... Est-ce que vous pensez que certains esclaves, au bout de 7 ans, arrivaient, se mettraient à genoux au pied de leur maître, « Maître, écoute, moi je veux rester attaché à toi. » Pourquoi les gens rétrogradent ? Pourquoi les gens abandonnent leur maître ? Pourquoi les gens veulent reprendre leur liberté ? Parce qu'ils n'ont pas compris quel était le maître. S'il y a des hommes qui sont infiniment bons, mais comment pourrions-nous douter un instant de l'infinie grandeur de son amour, de l'infinie grandeur de sa puissance ? Mais relisez, l'apôtre Paul, il va s'étouffer. Je ne sais pas comment il a écrit, il était rempli de reconnaissance. Mes frères et sœurs, et nous devrions dire, mais c'est quoi l'élection ? Il nous a élus quand ? 5 minutes avant que l'on meure, avant la fondation du monde. Mais c'est extraordinaire. Avant que les galaxies ne soient créées, les centaines de milliards d'étoiles qui composent chaque milliard de galaxies. Mes frères et sœurs, avant que Dieu ait tout ordonné, tout créé. Quelqu'un disait ce matin dans sa prière, tu es incomparable. Il est incomparable, notre Dieu. Il y a quelques années de ça, il y avait des savants. Non, mais ça fait pitié. Des savants qui s'étaient pris un peu la tête. Et ils avaient réussi à créer un grain de blé. Et il se vantait d'avoir... Mais le grain de blé, il n'y avait pas le germe dedans. C'était comme un morceau de plastique. Il n'y a que Dieu qui met la vie quelque part. Dans chaque graine, c'est Dieu qui met la vie. Mes frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Si des esclaves pouvaient dire « Non, je resterai dans ta maison, mets-moi une boucle d'oreille. » Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'à l'époque, ça représentait quelque chose. Quand on voyait un homme avec une boucle d'oreille, c'était un homme qui avait décidé de s'attacher à son maître toute sa vie. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez pourquoi les hommes mettent des boucles d'oreilles. Si vous ne le savez pas, regardez. Vous allez voir. Mais frères et sœurs, bon, là, j'ai fait une digression. Maintenant, revenons à notre richesse. Est-ce que nous n'avons pas honte ? Sérieusement, notre pauvreté en dit long sur la façon dont on reçoit ces choses. On pourrait prendre quelques vertus afin que, on relit juste la première partie. Mais lisez ces chapitres, vous le ferez aussi bien que moi, c'est certain. Si vous prenez le temps, le Saint-Esprit vous éclairera. Il ouvrira vos yeux. Vous avez vu les deux disciples, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus marchait à côté de lui. Deux, ils ne le savaient pas. Ils n'ont pas compris. Regardez, Éphésiens chapitre 1er. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Est-ce que ça fait partie de vos prières ou est-ce que vous êtes suffisamment voyant? Écoute, mais non, moi je vois tout, je comprends tout, je sais tout. Est-ce que vous priez pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur? Est-ce que vous priez pour que Dieu illumine les miens? Pour que j'obtienne sa pensée, etc. Éphésiens donc, il prie, c'est important qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Regardez mes frères et sœurs, franchement. D'abord, il faut, avant de l'expérimenter, donc il faut la comprendre. Quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel ? Donc, à l'élection, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi ? Parce que les gens, ils n'ont pas compris ce que c'était l'élection. Ils sont catholiques, ils sont protestants, ils sont pentecôtistes, mais ils ne sont pas devenus de ces élus qui reçoivent continuellement quelque chose. Vous vous rappelez dans le texte où Jésus dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ? C'est dans quel contexte que Jésus dit ça? La parabole du festin dénonce. Jésus dit, voilà, il y avait un grand roi qui fait un grand repas et il invite tout le monde. Il invite les gens et puis les gens, ils s'excusent, on n'a pas le temps, il faut aller essayer les tracteurs, etc. Bon. Puis les gens s'excusent, on vient de se marier, on n'a pas le temps, tatati, tatata. Puis mais allez partout, accueillez tout le monde, les méchants et les bons, tout le monde. Et la salle fut pleine. Et le jour arrive. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus, c'est sérieux. Et puis, parce que nous on s'arrête sur les excuses ou sur la salle qui remplit, mais en vérité il y a un enseignement beaucoup plus pointu, c'est que lorsque le maître arrive, il voit un homme qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Et il dit, mais comment ça se fait que tu es rentré ici? Ben, sûr, vous inquiétez pas, il n'y aura pas des gens au ciel que Jésus va renvoyer en enfer. C'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui acceptent l'invitation, ils acceptent le fait d'entrer dans l'église, mais ils n'acceptent pas les conditions. Et dans ce texte, on va le lire, parce que je vois qu'on a beaucoup de temps. Regardez bien avec moi, c'est dans Matthieu 22. Dans ce texte, il y a un enseignement, mais c'est archi grave. Regardez bien. N'oubliez pas, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas M. Gault qui a inventé la parabole. Matthieu 22, verset 11. Mes frères et sœurs, il faut lire ces textes, il faut s'arrêter. Il faut vraiment s'arrêter. Matthieu 22, verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. De toute façon, c'est comme ça que ça se passera. Il lui dit, verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là que Jésus adresse cette parole que l'on connaît très bien, car il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Beaucoup de gens sont appelés. D'ailleurs, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que Dieu peut appeler tout le monde? Mais oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. C'est écrit. C'est Jésus qui l'a dit. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc il y a beaucoup de gens qui sont appelés et il y a beaucoup de gens qui entrent dans le royaume de Dieu. Ils entrent comme cet homme. Mais justement, comme les pharisiens, moi j'ai ma propre justice, moi j'ai ma religion. Écoutez-moi, votre religion, elle ne vous sauvera pas. Votre église ne vous sauvera pas. Et s'il y a une église mondialement connue qui dit « en dehors de l'église, pas de salut », je peux vous assurer que ça ne vient pas du royaume de Dieu, ça vient de l'enfer. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve par son sang précieux. Et donc beaucoup de gens disent, mais pourquoi il n'a pas mis l'habit? Parce qu'il y avait des gens qui disent, mais non, mais moi mes habits à moi, ils me vont bien, je préfère mes habits à moi que me revêtir du sang du Seigneur. Pour beaucoup de gens, se revêtir des choses de Dieu, c'est presque humiliant. Écoutez-moi, si vous n'êtes pas revêtu du vêtement blanc de la justice, vous n'irez pas au ciel. Même si vous avez pris le baptême, même si vous avez dit pardon pour vos péchés, et vous devez passer par la croix. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Et nous devons rester fidèles aux saints et aux fidèles qui doivent découvrir ce que c'est l'élection. C'est Pierre qui dit « Appliquez-vous à affermir votre élection ». Ailleurs, juste avant, il dit « Votre vocation », dont les choses que l'on doit faire, mais après, il dit « Appliquez-vous à affermir votre élection », c'est-à-dire notre position en Christ. Donc, je dois revenir. Alors, l'espérance, prenons-en, on va en prendre un ou deux, l'espérance. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez de l'espérance? Est-ce que vous êtes plein d'espérance? Est-ce que vous êtes rempli d'espérance? J'ai dit tout à l'heure, mais je le pense, je le dis mal peut-être, on devrait avoir honte de notre pauvreté spirituelle. Je ne parle pas de notre dépendance, mon introduction. Je parle du fait que nous ne recevons pas ce que le Seigneur voudrait nous donner. Il l'a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et on a un problème, c'est que le Seigneur nous parle, mais on ne comprend rien. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. On va prendre un texte sur la paix. Regardez, dans Jean au chapitre 15. Dans Jean au chapitre 15, Jésus va mourir dans les heures qui suivent. Il va être arrêté, il va être livré. Jésus leur parle, Jésus leur dit, demandez et vous recevrez. Le Seigneur n'arrête pas de les encourager. Et même, regardez ce qu'il leur dit. Jean chapitre 15, verset 11. Mais prenez le temps de méditer ces choses. Je ne sais pas comment vous méditez la parole de Dieu. Si vous la lisez pour la lire, ou si vraiment vous la méditez, vous prenez un chapitre et vous allez y passer la semaine. C'est comme ça qu'il faut faire. Jean chapitre 15, verset 11. Vous voyez, le fait de savoir, que j'ai dit tout à l'heure, que Paul relève, Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses. Pourquoi? afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dans une autre version, c'est complète. Parfait ou complet, c'est pareil. Donc le Seigneur leur parle, voilà, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la joie. On le voit à plusieurs reprises, regardez au verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Oui, ce qu'il nous a dit, ce qu'il voulait que l'on sache. Au verset 16, verset 1er, je vous ai dit ces choses. Oui, je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Verset 4, je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Regardez au verset 12, c'est là qu'on voit qu'il y a une progression. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Au verset 7, je reviens en arrière. Cependant, je vous dis, on voit que le Seigneur s'est appliqué. Voilà, je vous dis ces choses. Je veux que vous les sachiez, afin que votre joie soit parfaite. Non, mais franchement, regardez le résultat. Je ne sais pas si c'est de l'humour noir, mais c'est archi grave. Verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, vous avez vu la suite ? La tristesse a rempli votre cœur. Alors vous allez me dire, non mais attends, il parle aux apôtres, qui on est nous pour... Mais quand même. Jésus leur dit, voilà, je vous dis ça, et je vous dis ça, et je vous fais connaître ça, et je veux que vous ayez une joie parfaite, je vais partir, je vais remonter au ciel, il vous est avantageux que je m'en aille, etc., parce que si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, et c'est vrai que si Jésus n'était pas remonté au ciel, il ne pourrait pas être partout sur la terre par la puissance du Saint-Esprit, vous devez savoir ces choses, alors il y a des choses, vous ne pouvez pas encore les porter, d'accord. Il nous faudra des années, 7 ans, comme les esclaves, ou peut-être 14, etc., ou 20. Et moi, je ne veux pas mettre la pression à personne. Mais mes frères et sœurs, la tristesse ne devrait pas remplir notre cœur. Quand j'entends les chrétiens, vous voyez, qui prient, Seigneur, qui est la paix sur la terre, qui est la paix sur la terre, Seigneur, qui n'y ait pas d'autre attentat. Mais bon, ce n'est pas forcément malsain. Mes frères et sœurs, le péché, il amène le malheur. Et quand on vote des lois impies dans un pays, ne nous attendons pas à ce que les Français soient heureux. Les Français seront de plus en plus malheureux. Les seuls qui peuvent avoir la joie, ce sont les chrétiens saints et fidèles. Les seuls, en France, partout, qui peuvent avoir la vraie joie, ce sont les chrétiens. Si vous connaissez un païen qui a de la joie, envoyez-moi-le. Informez-moi. C'est impossible, je le répète, le malheur, il est lié au péché. Et le bonheur, il est lié à la dépendance et au fait d'apprendre et de recevoir et d'expérimenter. Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Ça fait pitié. Et vous, avec ce que Dieu vous dit, est-ce que vous avez le cœur rempli de tristesse ou est-ce que votre joie, elle est parfaite ? Seigneur, moi, je peux qu'être dans la joie. Cette joie, ce n'est pas la joie, le rire hilarant en continu. C'est cette satisfaction. Quand Jésus parle de joie, c'est une satisfaction intérieure, une paix intérieure. Et on pourrait prendre toutes les vertus. Mais quelle est l'espérance ? Moi, franchement, moi, je suis rempli d'espérance. Pourtant, je sais que tout va aller de plus en plus mal, mais le Seigneur, il garde ses enfants. C'est écrit, ça, une fois au moins, petite fois dans la Bible, que Jésus pourrait peut-être avoir la possibilité et la puissance de garder un des siens, 1 sur 100 au moins. C'est ridicule. Le Seigneur, il s'est engagé à protéger tous ses enfants. Alléluia. Et vous pouvez avoir une pleine espérance. Vous pouvez avoir une pleine paix. Vous pouvez avoir une pleine confiance. Vous pouvez avoir une pleine consolation. Est-ce que c'est écrit que Dieu est le Dieu de toute consolation ? Et moi, franchement, je vous le dis, et je ne veux surtout pas que quelqu'un pense que je suis dans le jugement. Parce que nous devrions avoir honte de notre pauvreté. Alors je sais, et j'ai commencé esprit justement avec cet équilibre entre la joie et la tristesse, que même Dieu peut permettre que notre joie se change en tristesse pour qu'on réfléchisse un petit peu. Mais mes frères et sœurs, un chrétien, il devrait être rempli jusqu'à la connaissance de l'amour de Dieu. Ce n'est pas important de recevoir de l'amour, mais est-ce que je m'approche de Dieu? Moi, je ne sais pas, mes frères et sœurs. Le diable, il doit se frotter les mains. Un esclave qui a un bon maître, il ne pensera jamais à partir de la maison. Mes frères et sœurs, prions pour que nous ayons une bonne église, où nous serons heureux dans la maison du Seigneur. Oui ou non? Vous êtes heureux dans la maison du Seigneur ce matin? Vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Est-ce que vous vous plaisez dans la maison du Seigneur? Est-ce que vous aimez le grand maître? Je ne parle pas du petit contremaître. Je parle du grand maître du ciel et de la terre. Je ne parle pas du chef d'équipe qui lui aussi veut faire des progrès et rester dans la maison jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, nous avons un grand Dieu et nous devons supplier le Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Jésus leur a ouvert les yeux. Il l'a fait pour eux, il le fera pour nous. Ouvre-moi les yeux. Seigneur, il faut absolument que je comprenne quelles sont ces bénédictions spirituelles. Heureux les pauvres en esprit. Je dépendrai de toi, Seigneur. Oui, j'ai besoin de paix parce que j'ai envie de la procurer demain au boulot. Ils sont en paix, les gens, là où vous travaillez? Vous travaillez avec des inconvertis? Vous trouvez qu'ils sont dans la paix? Vous trouvez qu'ils sont dans l'espérance? Peut-être que demain, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans le deuil. Est-ce que Dieu peut mettre sur votre chemin demain quelqu'un qui est dans le deuil? Vous n'avez pas envie de le consoler? Non? Ou est-ce que c'est lui qui va vous consoler? Vous savez, je raconte une histoire vraie. Il y a quelques années de ça, il y a une chrétienne qui m'écoute sur Internet, qui a voulu m'offrir un repas. Alors elle est venue avec son mari, elle m'a dit, Monsieur Gau, voilà, je tiens à vous remercier, tout ça. Et on a été au restaurant. Et pendant le repas, elle a commencé à gémir, et à se plaindre, et à râler. Et son mari, inconverti, a passé le repas à la consoler. Mais chérie, tu ne devrais pas t'inquiéter. Tu sais bien que ton Dieu, il peut t'aider. Mais chérie, ne pleure pas. Tu sais très bien que ton Dieu, il a le pouvoir de te garder. Tu devrais avoir du courage. Et à la fin, j'ai dit, vous devriez avoir honte. Un inconverti qui vous soulage. La pauvreté, comme je vous l'ai défini ce matin, ça devient un péché, mes frères et sœurs. Vous savez, quand il est dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas comme un péché, mais là, à ce niveau, quand nous sommes continuellement découragés, ça peut arriver, moi ça m'a été arrivé, pas découragé, désespéré. Je sais de quoi je parle, vous inquiétez pas. Mais mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui restaure. Et quand Jésus dit, prenez courage, parce que vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde, prenez courage, est-ce que demain matin, peut-être ce soir, je vais dire, Seigneur, je veux faire un acte de foi, je veux prendre courage. Seigneur, je vais prendre de l'espérance. Les ruisseaux de Dieu sont pleins. Je comprends. Pourquoi tant de gens rétrogradent? Franchement, je comprends. Parce que si on le connaissait, le Seigneur, eh bien, on ferait comme ces esclaves dans l'Ancien Testament qui disent, pas de question de sortir de la maison. Pas question d'abandonner mon Seigneur. Oui ou non? Alors, mes frères et sœurs, demandons-lui de l'aide. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, mais aide-moi, je veux te connaître. Je veux te connaître davantage, je ne te connais pas assez. Mes plaintes, mon découragement, ma faiblesse continuelle, mon apitoiement, eh bien, c'est la preuve que je ne te connais pas, Seigneur. Vous croyez que Dieu peut vous aider? Est-ce que Dieu peut vous aider, mes frères et sœurs? Ben oui, on peut le prier un instant. Je ne sais pas si vous êtes pauvre dans le premier sens, mais si vous dépendez de lui, il y a de fortes chances que vous deveniez riche spirituellement. Le titre d'ailleurs de mon message, c'était « Pauvre et riche ». Si vous dépendez de lui, vous deviendrez riche. Et quand vous passerez devant lui, oui, vous serez revêtu de fin lin blanc éclatant pur. Et je pense que pour l'éternité, quand on verra la maison, on va lui dire oui. Je veux être attaché à mon maître, non seulement sur la terre, mais pour toujours. J'aimerais, mes frères et sœurs, que l'on puisse, dans notre cœur, prier. On va lui demander pardon. Vraiment, on va lui demander pardon. pour notre pauvreté. Tout ce qu'on aurait dû obtenir et qu'il veut donner, le problème, il est là. Si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Voilà la dernière invitation à l'Église. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre grand Dieu de l'univers. Si nous savons que sur la terre il y a des maîtres et des hommes bons, que n'as-tu pas payé sur le marché du monde ton sang précieux pour nous arracher de l'esclavage et nous amener dans ta maison. Oui, Seigneur, nous voulons être collés à la porte pour garder cette alliance éternelle. Nous voudrions, Seigneur, recevoir tout ce que tu veux nous donner, en sachant qu'il y a des délices éternelles à ta droite. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons péché, en ne prenant pas, en ne recevant pas tout ce que tu avais à nous donner. Seigneur, vraiment du fond du cœur, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, à ce que nos yeux s'ouvrent, s'illuminent, que nous comprenions toute cette position qui appartient aux élus, à ceux qui t'ont accepté comme sauveur, comme Seigneur et comme maître. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.